au 1047 Outaouais. Vous écoutez l'Outaouais maintenant. L'Outaouais maintenant. Avec Louis-Philippe Brûlé.
Bon, parlons d'éducation maintenant. On sait que c'est le retour à l'école en présentiel, finalement, pour les jeunes du primaire, la semaine prochaine en Outaouais, en alternance, dans le cas des jeunes du secondaire, dans les MRC Papineau et Vallée de la Gatineau. Mais en Ontario, on est ailleurs, là, au point où il y en a même qui pensent que le gouvernement Ford veut rendre l'école virtuelle permanente pour les familles qui le désirent. Et c'est le cas de Anne Vinet-Roy. Elle est présidente de l'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens, qu'on va tout de suite aller retrouver. Bonjour, Mme Vinet-Roy.
Bonjour.
D'abord, je sais que l'école en ligne, là, c'est vraiment pas évident, ni pour les élèves, ni pour les profs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le moral des troupes?
Bien, c'est très, très, très difficile. Puis j'ajouterais qu'on sait que c'est très difficile pour les familles aussi. C'est difficile à jongler. C'est pas la raison pour laquelle le personnel scolaire s'est engagé dans cette profession-là de travailler à partir de la maison. La profession d'enseignant et toutes les autres professions liées à l'éducation sont vraiment normalement faites dans le cadre de contacts humains, de relations humaines et tout ça. Et ça fait en sorte qu'à distance, on peut absolument pas faire la même chose ni s'attendre au même résultat là, que si on était en présence avec les élèves.
Bien sûr. Le pire, c'est que quand la pandémie a commencé et qu'on a dû basculer un peu partout là, en école virtuelle, on était jaloux de l'Ontario au Québec parce que vous étiez nettement plus équipés et mieux préparés à cette réalité-là.
Ben peut-être jusqu'à un certain point, mais si vous avez suivi un peu ce qui s'est passé en Ontario, il y a le fameux mot pivoter, puis peut-être que le gouvernement du Québec l'utilise aussi, mais c'est pas aussi facile que ça n'a l'air là, de passer d'un mode à l'autre. Il y a beaucoup d'ajustements à faire. L'équipement, oui, mais c'est pas évident d'avoir le même équipement dans tous les foyers des familles qu'on aurait normalement à l'école. Puis même ce qu'on a à l'école, parfois, c'est pas parfait. Ça peut être une question de réseau Internet accessible. Il y a toutes sortes de facteurs, donc il n'y a pas de situation parfaite. C'est certain d'une certaine perspective, on a toujours l'impression que le gazon est plus vert chez le voisin, mais c'est pas toujours le cas.
Bon, au moment où on se parle, en tout cas, il est moins vert, là, c'est assez clair. Est-ce qu'il y a une date de prévue ou d'espérer ou d'encercler sur le calendrier pour un possible retour à l'école, si on pense à des régions comme Ottawa et l'Est-Ontarien?
Il n'y a pas de date. On sait que l'ordre de rester à la maison est minimum jusqu'au 20-21 mai. Alors, est-ce qu'après ça, il va être jugé sécuritaire d'être en mesure de réouvrir les écoles? On ne sait pas. C'est certain que si c'est l'objectif, et ce serait l'idéal, parce que oui, on l'a dit tantôt, ce qui est vraiment mieux, c'est l'enseignement en présence. C'est pas certain que toutes les mesures nécessaires vont être en place, là. Autant de notre côté que du côté du Québec, je présume, mais au niveau de la ventilation, il n'y aura pas nécessairement moins d'élèves par classe, et ça, c'est un facteur important au niveau de la transmission qui est fait dans le milieu scolaire et que le gouvernement de l'Ontario continue de nier en disant toujours là, jusqu'à la dernière seconde, non, les écoles sont sécuritaires jusqu'à ce que tous les bureaux de santé régionaux ou à peu près se sont virés de bord et ont fermé. Les écoles à tour de rôle.
On entend la même chose ici au Québec, si ça peut vous rassurer. Ouais. Là, c'est pas mal la même réalité, le même discours de part et d'autre.
Mm-hmm, absolument. Mm. Donc, non, c'est à espérer que très bientôt, on va être en mesure de le faire parce qu'on sait que c'est pas facile là, sur la santé mentale de tout le monde, mis à part l'apprentissage. Là, il y a tout le volet santé mentale pour toutes les personnes impliquées qui est hyper important, mais on sait pas si ça va être possible selon les gestes et les réels investissements, je dirais, là, que notre gouvernement est prêt à faire ou non. Et on n'a pas eu de bons exemples concrets au cours des derniers mois, malheureusement.
Ouais. Là, la bombe qui est tombée cette semaine, c'est que les parents pourraient choisir, même pour la prochaine année scolaire, entre l'école à distance ou en présentiel. Là. C'est pas une rumeur, là. Ça a été annoncé cette semaine.
Oui, absolument. Les conseils scolaires ont reçu une note à ce sujet-là. Et puis, en effet, c'est très, très inquiétant, malgré que on est conscient que la pandémie ne sera pas terminée en septembre. Ça fait quand même au-delà d'un an que le gouvernement aurait dû avoir de meilleurs plans en place au lieu de juste étirer tous les mécanismes temporaires qui ont été utilisés pour réagir à la situation dans laquelle on se trouvait. Parce que ça a eu énormément de défis. Les modèles hybrides, les cohortes, ça fonctionne pas. Quand on demande aux enseignants et au personnel de l'éducation, parce qu'il y a des enseignants aussi, des éducateurs, des éducatrices, on leur demande d'enseigner et dans leur salle de classe et de garder la caméra ouverte.
Ben oui, t'en as 12 en classe, t'en as 14 à distance, puis au fond, arrangez-vous avec ça, c'est un petit peu le message.
Oui, puis c'est absolument déraisonnable, c'est pas logique, c'est un fardeau très, très lourd pour tout le monde, incluant les familles, puis les enfants à la maison, autant ceux qui sont à l'école que ceux qui essaient de suivre tant bien que mal à la maison. Ils n'ont pas le même service, n'ont pas la même approche, on peut pas adapter aussi bien pour répondre aux besoins des élèves. C'est pas humain de demander ça, là. Puis en plus d'exiger, comme je vous disais tantôt, le même genre de résultat. Le contexte dans lequel on se trouve, là, oui, il faut être flexible, mais il y a des limites à cette flexibilité-là.
Oui, puis c'est toujours les enfants les plus, au fond, en difficulté qui écopent dans ce temps-là. Tu sais, celui qui est surdoué, qu'il soit à maison, à l'école, il va avoir quand même des résultats intéressants. Celui qui était sur la limite d'avoir des problèmes ou qui en avait déjà, c'est rien pour aider, là.
Non, absolument pas. Puis c'est le rôle des enseignants et des travailleurs en éducation qu'on a l'habitude de faire ça, d'adapter selon les besoins particuliers des élèves. Et il y a un déchirement là au niveau du personnel scolaire présentement parce qu'on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. On se démerde, on prend des bouchées doubles et triples, mais on sait en même temps qu'on ne peut pas répondre aux besoins de nos élèves comme on pourrait le faire d'habitude. Et ça nous brise le cœur.
Oui, puis il y a tout le côté motivation aussi parce qu'au-delà du rendement académique, là, il y a des jeunes, là, côté motivation, qui vont repartir de loin, là.
Oh, absolument, parce que c'est pas évident de rester accroché, autant pour les adultes que pour les enfants. Alors, veut pas, il y a des habitudes qui se sont prises ou des façons de faire ou de fonctionner qui ont miné la concentration, c'est certain, mais encore là, c'est pas nécessairement la faute des enfants ou des familles ou du personnel scolaire. C'est vraiment le contexte dans lequel on s'est retrouvé là, qui n'a pas aidé du tout. Et par ricochet, notre gouvernement n'a pas aidé du tout non plus.
Mais là, l'option là, à distance ou en présentiel pour l'année prochaine, avez-vous plus de détails? Est-ce que le parent devrait faire un choix pour toute l'année ou semaine par semaine? Comment ça pourrait fonctionner?
Ben cette gestion-là va se faire surtout au niveau des conseils scolaires individuels. Si je me fie à ce qui s'est passé cette année, c'est sûr qu'on entend aussi dans le système qu'on veut pas nécessairement qu'il y ait trop d'options de faire un changement constant là, quelques semaines ici, quelques semaines là, parce que c'est difficile pour le personnel, c'est difficile pour les élèves, parce que comme je vous disais tantôt, le principe de pivoter là, c'est pas ça qui se passe là. C'est pas réaliste de penser que ça se fait rapidement du jour au lendemain. Alors, mais ce sera vraiment le gouvernement normalement donne des consignes assez générales pour permettre une certaine flexibilité au conseil scolaire. Des fois c'est bon, des fois c'est pas bon, mais ça va surtout être géré au niveau des conseils scolaires comme tels.
Mais là, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est pas juste pour l'an prochain, puis qu'au fond les intentions cachées du gouvernement c'est d'offrir ça pour de bon là, l'option maison ou à l'école?
Bien, le gouvernement a utilisé la situation dans laquelle on est, de ce qu'on comprend, de ce qu'on sait au niveau de son plan de rendre permanent l'apprentissage électronique. C'est sur une période d'un certain nombre d'années et ce que le gouvernement souhaite faire, c'est de créer tout un système à part au niveau d'apprentissage en ligne qui serait géré par une compagnie privée, là. Et il pourrait vendre les cours ou ces programmes-là autant à l'international qu'ailleurs, et il ferait de l'argent sur le dos du système scolaire qui devrait être financé à 100% par les fonds publics. Et l'argent, il n'y en a pas qui pousse dans les arbres. Alors, quelque part, ça va enlever de l'argent au système traditionnel et ça va faire souffrir le système traditionnel au profit d'autres options qui ne répondront pas aux besoins de tous les élèves non plus. Oui, il y a peut-être une clientèle d'élèves qui préférerait ce mode-là, mais c'est le fait de vouloir privatiser tout ça et enlever de l'argent au système traditionnel qui est vraiment, vraiment problématique.
Alors, vous craignez du deux poids, deux mesures et vous pensez que les conséquences seraient encore plus néfastes sur l'éducation en français en Ontario. Expliquez-nous ça.
Bien, absolument, parce que ce qui existe présentement, il y a déjà dans bon nombre de conseils scolaires l'option, si un élève le veut, de choisir, ou avec son parent, de choisir un cours ou quelques cours qui s'offrent en mode plus autonome ou en ligne. On a un programme qui s'appelle le Cavelflow, entre autres, qui est géré par les conseils scolaires, et ça peut répondre à des besoins comme, par exemple, s'il y a un type de cours qui ne s'offre pas dans une certaine région, ben l'élève peut quand même le suivre pour obtenir son diplôme. Mais ce qui est problématique, c'est si on enlève du financement à un système scolaire francophone en milieu minoritaire pour le privatiser pour l'utiliser pour faire de l'argent ailleurs, tout en laissant à lui-même un système d'éducation pour lequel le gouvernement a des responsabilités légales, là, au niveau de l'apprentissage en milieu minoritaire par rapport aux deux langues officielles au Canada, et l'Ontario fait partie de ça. Alors ça, c'est une problématique très, très inquiétante au niveau du système scolaire francophone en milieu minoritaire.
Wow! Alors, on doit se laisser là-dessus, mais je comprends qu'après la crise de la pandémie, il y aura la crise de l'éducation, puis ça pourrait brasser en Ontario.
Absolument. C'est malheureusement loin d'être fini.
On pourra s'en reparler. Merci beaucoup pour l'entrevue, Mme Vinerois.
De rien, ça me fait plaisir. À la prochaine.
Voilà, Anne Vinerois, elle est présidente de l'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens qui s'inquiète beaucoup pour la suite des choses dans le milieu de l'éducation et particulièrement dans le milieu de l'éducation en français.